Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un mois après le retrait des troupes israéliennes d'Al-Shifa, il ne reste plus que des décombres de ce qui fut le plus grand centre hospitalier de Gaza. Des milliers de civils y ont été assiégés pendant une quinzaine de jours sans que les médias ne puissent accéder à la zone. Israël, de son côté, parle d'une opération réussie contre le Hamas. Début avril, quelques jours après le retrait des Israéliens, une délégation de l'OMS a été autorisée à se rendre sur place. Le médecin Ayadil Saparbekov, qui dirigeait l'opération, décrit une scène apocalyptique.
C'était le service des urgences. Et comme vous pouvez le constater, il est totalement détruit. Tout est complètement détruit. Et surtout, je sens l'odeur des eaux usées et des corps en décomposition autour de moi. Et ce que vous voyez aussi, ici, dans la cour de l'hôpital, ce sont les tombes des personnes décédées. Certains d'entre eux ont été enterrés, mais certains ne le sont même pas encore. Ainsi, vous pouvez voir ici, ici et dans de nombreux autres endroits, vous pouvez voir les corps qui pourrissent sous le soleil de Gaza. C'est horrible et c'est inimaginable.
Alors, que sait-on exactement aujourd'hui de cette opération? Pourquoi l'armée israélienne a-t-elle délibérément visé un hôpital? Et quelles conséquences pour le système de santé gazaoui déjà asphyxié? Pour répondre à ces questions, j'appelle Clotilde Mravko, qui couvre l'actualité des territoires palestiniens pour Le Monde. Al-Shifa, l'hôpital devenu cimetière, un épisode de Marion Botorel et Garance Munoz, réalisation Thomas Zeig. Bonjour Clotilde.
Bonjour Jean-Guillaume.
Clotilde, tu as écrit un long papier sur les événements qui ont touché Al-Shifa sans pouvoir te rendre sur place, donc, puisque l'armée israélienne empêche toujours aux journalistes d'accéder à Gaza. Malgré ces difficultés, tu as quand même tenu à essayer de raconter ces deux semaines de siège, c'est ça?
Oui, effectivement. Alors, faut quand même se rendre compte quand l'armée se retire de l'hôpital Al-Shifa après deux semaines de siège le 1er avril. Il y a vraiment le choc des images que filment les journalistes palestiniens qui arrivent sur place, avec vraiment l'hôpital qui est devenu un cimetière à ciel ouvert. Il faut bien comprendre que Shifa, c'est vraiment l'hôpital le plus important de Gaza. C'est une institution qui a été construite même avant la naissance d'Israël. Tout le monde connaît Al-Shifa, c'est un quartier qui est central au cœur de la ville de Gaza, qui a été extrêmement dévasté depuis bientôt 7 mois. Et de voir en fait ce grand bâtiment emblématique du cœur de la ville de Gaza complètement détruit, avec son entrée incendiée, calcinée, tout était rasé, même autour de l'hôpital Shifa en fait, le quartier entier. On a une image de la chaîne Qatari Al Jazeera qui montre par drone l'état de dévastation. On dirait qu'un séisme a frappé la zone. Et de l'autre côté, il y avait un discours israélien après le retrait des troupes de l'hôpital qui dit il n'y a pas eu de victimes civile, c'est une opération réussie. Alors du coup, j'ai voulu aller voir ce qu'en pensaient les Palestiniens, s'ils pouvaient nous raconter ce qui s'était passé pour avoir une autre version de ces deux semaines de siège.
Sauf que je le disais, tu ne peux pas y accéder à la bande de Gaza, alors comment est-ce que tu t'y es prise ?
Alors, d'habitude, je travaille avec des contacts sur place qui me donnent d'autres contacts et donc je fais les interviews par téléphone. La connexion est en général très mauvaise. Et là, j'avais une grosse difficulté, c'est que je ne connaissais quasiment plus personne sur place à l'hôpital Al-Shifa. Les gens sont extrêmement traumatisés et donc je me suis dit que c'était impossible pour moi de mener des interviews par téléphone en instaurant ce lien de confiance que j'arrive d'habitude à instaurer. Donc j'ai décidé de faire appel à un autre journaliste palestinien pour m'aider, ce qu'on appelle un fixeur.
Et alors un fixeur, on va expliquer ça, Clotilde, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas ce vocabulaire journalistique. C'est une personne qui fait le lien entre un journaliste, toi en l'occurrence, et le terrain, qui l'aide à trouver des personnes à interviewer, qui fait des traductions. Qu'est-ce que toi, tu lui as demandé de faire ?
Alors, moi, je parle arabe, donc on n'avait pas besoin de traduction, mais je lui ai envoyé une longue liste de questions à poser. Mon idée, c'était que vraiment, il puisse être, en gros, mes yeux et mes oreilles, puisque je ne peux pas être sur place. Donc, il a récupéré les témoignages en allant rencontrer les personnes qu'il interviewait. Il a enregistré ensuite ses interviews sur son téléphone et puis il me les a envoyées. Il a aussi pris des photos, il m'a décrit ce qu'il avait vu, ce qu'il ressentait en voyant ces personnes aussi. On a posé des questions plus intimes, on a tenté aussi de comprendre ce qu'elles avaient ressenti sur le moment, comment elles se sentaient aujourd'hui. Voilà, tout ce genre de choses qui sont beaucoup plus palpables quand on est sur le terrain et que moi, j'arrive pas forcément à avoir aussi au téléphone.
Et Clotilde, après, toi, en tant que journaliste, comment est-ce que tu fais sur cette matière-là que te rapporte ce fixeur pour recouper l'information, pour vérifier que ce qu'ont dit les gens sur place est bien vrai?
Alors, dans le cas d'Al-Shifa, déjà, il y a un travail où je recoupe, en fait, ces témoignages. Donc, il y avait plusieurs fois où les témoins me racontent à peu près la même chose, à peu près le même déroulé, notamment le fait que tous ceux qui s'approchent des fenêtres se faisaient tirer dessus, par exemple, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou bien les gens qui habitaient dans le quartier. Il faut faire attention, évidemment, avec ces témoignages parce que, déjà, ce sont des gens traumatisés. Il y a aussi la notion du temps qui se perd, hein, sur 2 semaines de siège. Les gens ne savent plus très bien quel jour avait eu lieu tel événement. Mais en fait, ça, c'est tout notre travail aussi de les amener à reconstruire leur récit grâce à nos questions pour retrouver une sorte de chronologie, un fil. Et puis derrière, j'ai aussi pu recouper les noms de personnes qui avaient été tuées. Donc là, j'ai pu vérifier qu'effectivement, cette personne avait été tuée auprès des autorités de santé qui recensent en fait les morts à Gaza avec les noms, avec les numéros d'identité. Donc ce sont des vraies vérifications d'identité. Et puis, il y a également les déclarations des responsables officiels, soit dans l'enclave palestinienne, soit les responsables de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. On fait aussi des rapports détaillés, mais vous le voyez, hein, tout ça prend énormément de temps et donc l'article n'est sorti que le 22 avril alors que l'armée s'était retirée le 1er.
Clotilde, on va maintenant se pencher sur ce qu'il s'est passé exactement au sein de cet hôpital ces derniers mois, ce que tu as pu vérifier. Alors, il faut d'abord dire que la première opération militaire contre Al-Shifa, elle a eu lieu le 15 novembre 2023, donc bien avant ce nouveau siège de mars. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre, donc au début de la guerre ?
Alors, ça faisait quand même déjà un mois et demi hein, que l'enclave était sous les bombardements. Et puis, il y a eu donc cette opération terrestre de l'armée israélienne qui est lancée fin octobre. Ça a été quand même un tournant dans la guerre, dans le sens où c'est, comme je disais en introduction, le plus grand hôpital de l'enclave. Et que donc, à ce moment-là, c'est vraiment un moment charnière dans la destruction de l'armée israélienne du système de santé à Gaza. Alors, il y a eu en fait un schéma qu'on a retrouvé avant et après cette opération, qui est d'abord un encerclement de l'hôpital. Et puis, petit à petit, l'armée attaque et va lancer un raid. Alors, celui de novembre était moins important que le dernier là qui a eu lieu en mars, mais c'est celui qui a mis à terre pour la première fois l'hôpital Al-Shifa, et depuis il ne fonctionnait plus que partiellement. Et il y a eu des conséquences durables hein, de ce premier assaut. Les différents services de l'hôpital, pour certains, ont été rendus largement dysfonctionnels du fait des combats. On manquait donc en mars, avant même le deuxième assaut de l'armée israélienne, d'électricité, de fournitures médicales, d'oxygène, mais même de nourriture et d'eau.
Et alors, à l'époque, comment est-ce que Israël justifie une opération contre un hôpital ?
Alors, depuis le début, l'armée israélienne affirme que le Hamas se cache dans les hôpitaux, opère depuis les structures civiles. Là, cette fois-ci, dans le cas d'Al-Shifa, elle affirme notamment que l'hôpital abrite un centre de commandement du Hamas. Alors, faut savoir que un hôpital c'est protégé hein, par le droit international et humanitaire, et que donc on n'a pas le droit d'attaquer un hôpital sauf s'il est utilisé à des fins militaires. Et donc c'est ce que l'armée israélienne a avancé pour pouvoir attaquer l'hôpital Al-Shifa. En fait, c'est ce qu'elle a avancé pour pouvoir attaquer la plupart des hôpitaux de la bande de Gaza. Alors, il y a effectivement des éléments qui laissent penser que l'hôpital Al-Shifa a été utilisé par le Hamas, notamment parce qu'il y menait des conférences de presse en 2014, notamment pendant la guerre qui a eu lieu dans l'enclave en 2014. Et on a aussi des rapports hein, d'Amnesty International qui disaient que certains prisonniers palestiniens étaient détenus et torturés par les forces du Hamas à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa. Cependant, pour ce qui est de l'opération de novembre, les preuves qui ont été avancées par Israël de ce qu'il appelait le centre de commandement à l'intérieur de l'hôpital semble insuffisante au regard de l'ampleur de l'opération qui a été menée à ce moment-là et des destructions qui ont eu lieu dans l'hôpital.
Et c'est donc Clotilde, en invoquant à nouveau la recherche de commandants du Hamas et du djihad islamique, qu'Israël va assiéger pour la deuxième fois donc ce centre hospitalier le 18 mars dernier. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette opération ? Comment est-ce qu'elle s'est déroulée ?
Alors, de ce que racontent les témoins, le quartier a été soudainement assiégé aux alentours de 2h du matin. Deux médecins racontent un fracas énorme avec l'impression que tout va exploser autour d'eux. Et puis, petit à petit, dans la panique, quelques minutes après, une voix qui retentit. Donc, en fait, c'est les soldats qui parlent aux riverains à l'extérieur de l'hôpital, mais aussi aux gens à l'intérieur de l'hôpital, dans des haut-parleurs, pour leur dire qu'ils doivent rester, qu'ils ne doivent pas tenter de partir, parce que sinon, ils vont se faire tirer dessus. Et dans l'hôpital, donc tout le monde, les patients, les médecins, les déplacés hein, qui avaient trouvé refuge dans l'hôpital, sont sommés de se rendre. Et l'armée, dans un premier temps, leur dit de ne pas s'inquiéter et elle cherche de manière générale à rassurer aussi la communauté internationale après le lancement de cet assaut dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour affirmer en fait la légalité de cette opération.
Notre guerre est menée contre le Hamas, pas à l'encontre du peuple de Gaza. Nous ne cherchons pas à nuire aux civils derrière lesquels se cache le Hamas. C'est pourquoi nous allons mener cette opération avec prudence et précaution, tout en veillant à ce que l'hôpital continue à remplir ses fonctions importantes.
Donc voilà pour l'assaut initial, et à partir de là, donc Clotilde, l'hôpital Al-Shifa et ses alentours vont subir 14 jours de siège. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'il s'est passé exactement pendant ces deux semaines ?
Alors exactement, non, évidemment, hein, ce sont des témoignages parcellaires. Ce qu'on sait, c'est que déjà toute la zone était coupée du monde. Les gens ne sont pas sortis de leur logement, ceux qui habitaient autour d'Al-Shifa pendant deux semaines. Donc ils ne pouvaient pas se ravitailler en eau, en nourriture. À l'intérieur de l'hôpital, on décrit les mêmes situations. Alors l'armée israélienne dit qu'elle a rapporté des bouteilles d'eau. Hein, elle a montré une vidéo où on voit des soldats qui ramènent des bouteilles d'eau, de la nourriture. Mais en fait, les témoignages qu'on a sur place, des soignants racontent qu'en fait ils ont eu très faim et très soif. Il y a également plusieurs missions de l'ONU qui ont été refusées pendant toute la durée de l'assaut. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé avec certitude, d'autant plus que notamment, je parlais avec une médecin volontaire de 26 ans, Amira El Safadi, et donc elle racontait qu'elle a eu un portable chargé dans les premiers temps de l'assaut, mais que très rapidement elle n'a pas pu communiquer avec l'extérieur, les communications étaient complètement coupées.
Je me réveille et j'ai l'impression que je suis encore là-bas. J'entends les voix des soldats, le bruit des chars, des missiles et des explosions. Je suis très affectée psychologiquement. 16 patients sont morts. Pendant 4 jours, on a dû dormir avec les corps. L'armée ne nous a pas laissé les sortir ni les enterrer.
Et le siège d'Al-Shifa prendra fin donc le 1er avril avec le retrait de l'armée israélienne de l'hôpital. Clotilde, on a entendu en introduction de ce podcast la scène d'horreur décrite par le médecin qui dirigeait la délégation de l'OMS, finalement autorisée à se rendre sur place dans les jours qui ont suivi le retrait israélien. Quel discours tient l'armée israélienne lorsqu'il quitte Al-Shifa ? Qu'est-ce qu'il décide officiellement à mettre un terme à cette opération ?
L'armée israélienne dit tout simplement qu'elle a réussi son opération, que c'est une véritable réussite. Elle part parce qu'elle pense qu'elle a terminé son opération. Selon les chiffres de l'armée israélienne, il y a 200 combattants palestiniens qui ont été tués lors de l'assaut, environ 500 arrêtés. Et on a l'ancien premier ministre Naftali Bennett qui annonce qu'aucun civil n'a été tué. Il l'annonce sur le réseau X. Alors, tu as mentionné, hein, Jean-Guillaume, le témoignage du médecin de l'OMS. Et quand on voit, en fait, cet ancien premier ministre qui parle de zéro civil tué, on se rend compte qu'il y a une différence entre cette annonce et les chiffres qu'ont pu fournir les autorités de l'OMS et des organisations internationales.
C'est-à-dire, quel bilan on peut aujourd'hui établir de cette opération israélienne à Al-Shifa, 3 semaines après le retrait des troupes ?
Alors déjà, il y a un bilan qui n'est pas très clair, hein, mais ce qui est certain, c'est que d'après l'OMS, il y a au moins 21 patients qui sont morts pendant le siège, probablement faute de soins. On a également 4 membres du personnel de l'hôpital qui ont été tués et une 5e médecin, alors qu'il devrait être protégé en fait hein, par le droit international humanitaire. Et surtout, on a 2 charniers qui ont été retrouvés dans la cour de l'hôpital avec une 30aine de corps. Il faut imaginer en fait que quand les Gazaouis sont arrivés à l'hôpital Al-Shifa le 1er avril, après le retrait en fait des troupes israéliennes, égyptienne. Il y avait vraiment une odeur très forte qui est mentionnée par tout le monde de décomposition des corps insoutenable. Et bien, les jours d'après, en fait, ils se sont rendus à l'hôpital, les habitants du quartier, les proches de personnes qui avaient disparu pendant l'assaut, pour tenter de voir s'ils identifiaient un vêtement, une chaussure qui pourrait appartenir à l'un de leurs proches parmi les corps qui ont été retrouvés dans ces charniers et qui étaient dans des états de décomposition avancés. Et donc, c'est le cas, par exemple, de Maha Swelem, une infirmière de 38 ans. Elle vivait dans l'hôpital avec ses deux filles et son mari, qui était secouriste. Et elle le cherchait encore 3 semaines après le départ des Israéliens.
Ils l'ont embarqué et déshabillé. Je ne sais rien de lui. S'il a été détenu, exécuté ou s'il est enterré, je ne sais pas où il est.
Clotilde, est-ce qu'en recoupant ces témoignages, tu as pu identifier des victimes civiles mortes lors du siège et de l'assaut d'Al-Shifa, contrairement à ce qu'affirment les autorités israéliennes ?
Alors, d'après les témoignages et notamment les autorités de santé de Gaza qui ont en fait ouvert ces charniers et déterré les corps, il y a eu des cadavres qui ont été retrouvés en sous-vêtements, ce qui laisse penser qu'ils étaient arrêtés au moment où ils sont morts. Et donc, ce qui laisse penser que peut-être il y a eu de possibles exécutions sommaires. Il y a eu également des cadavres qui ont été retrouvés avec des cathéters, des bandages. Donc là, ça laisse penser que c'était des patients. Donc, on a des témoins oculaire qui affirme en fait que des gens ont été exécutés sommairement. Il y en a d'autres qui disent que il y a eu des gens qui ont été enterrés vivants. Et ça, c'est clairement, par exemple, le genre de choses qui sont impossibles à vérifier pour nous. Non seulement parce qu'on peut pas être sur place, mais aussi parce que il n'y a pas d'analyse forensique qui est menée pour l'instant. Et donc, on n'a pas d'observateurs internationaux qui puissent entrer librement et faire leur travail d'enquête, en fait. L'ONU a demandé à ce qu'il y ait une enquête qui soit ouverte sur les charniers, à la fois à Al-Shifa, mais aussi ceux qui ont été découverts quelques semaines plus tard à l'hôpital Nasser, à Khan Younis, dans le sud de l'enclave. Mais pour l'instant, Israël refuse, en fait, l'entrée de ces observateurs internationaux pour mener des enquêtes approfondies.
Clotilde, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à l'impact de cette opération sur le système de santé gazaoui. Al-Shifa a subi des dégâts considérables, l'hôpital est complètement à l'arrêt. Comment est-ce que les Gazaouis font désormais pour se soigner dans le nord de Gaza ?
Alors, il manque très clairement dans le nord de la bande de Gaza certains services. Depuis que Al-Shifa est dévasté, en fait, il y a certains services qui ne sont plus du tout accessibles puisque c'était le seul hôpital qui les délivrait. Donc, on a en fait une mission de l'Organisation mondiale de la santé qui est en place pour essayer d'au moins établir un peu des services d'urgence, une sorte d'hôpital de campagne. Bon an, mal an, qui puisse assurer certains services. Mais de manière générale, ça va demander beaucoup de temps. Faut aussi comprendre que dans le nord de la bande de Gaza, l'aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes dans l'ensemble de l'enclave y arrive encore plus difficilement. Et puis Al-Shifa, c'est vraiment une pièce importante du système de santé gazaoui qui avait été remis partiellement sur pied après le premier assaut. Et là, elle est complètement hors service depuis des semaines.
Et qu'est-ce qu'il en est au-delà d'Al-Shifa, de manière plus générale, du reste du système de santé gazaoui, dans le nord, mais aussi dans le sud, où beaucoup se sont réfugiés ?
Alors en fait, il y a énormément d'hôpitaux qui ont subi les attaques israéliennes. On parlait d'Al-Shifa, mais en fait, dans le sud, l'équivalent d'Al-Shifa, le plus gros établissement de la région, c'est Al-Nasser à Khan Younis, et il a subi quasiment le même sort en fait que l'hôpital Al-Shifa. Il est aujourd'hui complètement détruit. Le système de santé, les ONG le rappellent, est systématiquement ciblé par l'armée israélienne, qui dit à chaque fois qu'elle prend d'assaut les hôpitaux, les centres de santé, parce que le Hamas ou les groupes combattants palestiniens établissent leur quartier. Mais ça a des conséquences très très fortes pour les Gazaouis, parce que en fait, on a des services qui sont de moins en moins accessibles, parce qu'au fur et à mesure des assauts, il y a des services qui sont détruits dans les hôpitaux. On a en plus de ça le siège qui fait que les hôpitaux manquent de médicaments, on manque de tout, notamment d'anesthésiants pour pratiquer des opérations, notamment sur des enfants, des amputations. On a également des soignants qui, au fur et à mesure des assauts, pour certains, partent. parce que ce sont des assauts qui les mettent en danger, qui mettent en danger leur famille. Et on a énormément de soignants aujourd'hui qui ont été tués. Et puis, on a également du personnel des hôpitaux qui ont été arrêtés par l'armée israélienne.
Donc aujourd'hui, Clotilde, est-ce qu'on peut dire que le système de santé gazaoui s'est effondré quelque part ?
Alors, faut imaginer, hein, en fait, qu'un système de santé d'un pays développé qui n'aurait pas vécu, en fait, 16 ans de blocus comme a vécu Gaza et qui ne serait pas assiégé comme l'est la bande de Gaza depuis 7 mois, ne pourrait probablement pas déjà absorber ce qui se passe actuellement dans l'enclave, parce que on a des bombardements en continu, on a un nombre de blessés qui est énorme, qui dépasse les 75 000. On a à la fois les malades de maladies chroniques, hein, qui doivent régulièrement aller à l'hôpital dans n'importe quelle société. Et puis, on a ces blessures de guerre avec notamment des amputations d'enfants qui sont malheureusement extrêmement nombreuses et qui demandent un suivi particulièrement régulier. Pour ce qui est des brûlures, par exemple, aussi, il faut changer les pansements régulièrement, sinon ils s'infectent. Et là, on entend hein, les médecins qui disent qu'ils reçoivent beaucoup de patients qui, malheureusement, n'ont pas pu revenir à l'hôpital pour changer des pansements et qui ont des plaies infectées à des niveaux qui, en fait, nécessitent désormais des amputations. Et puis, on a aujourd'hui dans les hôpitaux, en fait, du fait de cet afflux énorme de blessés, des médecins qui sont face à des situations horribles où ils sont obligés de laisser des patients littéralement mourir parce qu'ils savent que les chances de les sauver sont moins importantes que leurs voisins et que donc ils privilégient de soigner la personne qui est arrivée avant ou après eux et qui, elle, aura des chances de s'en sortir.
Et Clotilde, face à cette situation sanitaire terrible que tu nous décris, qu'est-ce qui permettrait à minima de le soulager, ce système de santé qui s'est effondré ?
Alors, en fait, ce que demandent les ONG et les organisations internationales depuis des mois, en fait, un cessez-le-feu dans un premier temps, c'est déjà la première condition pour soulager le système de santé, le fait qu'il ne soit plus du coup attaqué, qu'il soit protégé et puis aussi qu'il y ait moins d'afflux de blessés puisqu'il n'y aura plus de bombardements. Mais il faut quand même imaginer que même s'il y avait un cessez-le-feu, si les combats s'arrêtent demain, en fait, les besoins de la population sont tellement énormes du fait notamment du siège depuis des mois, de cette destruction de la bande de Gaza qui est absolument massive. Les habitants, l'enclave en fait, mettra des mois pour s'en remettre et il faudrait en quelque sorte ouvrir complètement la bande de Gaza, lever le siège en fait, hein, pour qu'il y ait une entrée massive de médicaments et pour qu'il y ait surtout une évacuation en fait des blessés qui ne peuvent pas être pris en charge correctement aujourd'hui dans l'enclave palestinienne.
Merci Clotilde.
Merci Jean-Guillaume.
Si vous voulez en savoir plus sur la situation à Gaza, vous pouvez retrouver les articles de Clotilde Bravko et de tout le service international sur notre site lemonde.fr. Et pour pouvoir bénéficier de notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.